Bienvenue à l'aventure. Robert Blondin ici.
L'aventure de Christine Dessin, ça a été une jeune fille, ça a été une jeune femme, c'est maintenant une femme. Je l'ai rencontrée, on verra, en faisant beaucoup de musique avec l'ensemble d'Amati, entre autres. Mais ça, on y reviendra en détail un peu plus tard. Elle est traductrice, ça, tu l'es à plein temps, traductrice?
En ce moment, oui, oui.
C'est ton métier?
Oui, c'est mes premières études, le baccalauréat en traduction à l'Université de Montréal, oui.
Mais c'était pas tes premières études?
Ben, mes premières études...
Parce que je veux t'amener à l'école.
Où tu veux m'amener?
À l'école de l'humour, peut-être.
Ah, ben ça, c'est après, ça. Parce que suite au bac, j'ai travaillé, mais j'ai suivi un certificat en scénarisation cinématographique par les soirs, comme on dit. Et puis, c'est plus tard, à 40 ans, que je me suis payé le cadeau. Parce que pour moi, c'était un cadeau. Une année sabbatique, aller étudier à l'école de l'humour.
Et ça t'a donné quoi?
Ben du fun. J'ai eu bien du plaisir, mais je n'étais pas inscrite comme humoriste, mais comme auteur. Et c'était en 2000, donc en même temps que les Denis de Relais, Jean-Thomas Jobin. Je me suis trouvé à étudier avec François Havard, François Parenteau. En tout cas, on a eu bien du fun.
Un monde très différent que celui que tu connaissais déjà.
Ben oui. Oui, parce que j'étais plutôt dans la musique classique ou les choses classiques. Ou même à ce moment-là, je travaillais... Oui, je travaillais pour Anna Lecter, je crois. Non plus. Je suis toute mélangée.
Mais ça vient de la musique classique parce que tu viens de la musique classique. Tes parents, mais ça, on va en parler plus tard de ça, de tes parents, d'un milieu extrêmement pointu de la musique classique.
Oui, c'est ça. L'humour est très loin de... Ben, en fait, il y en a aussi.
Ou en dehors des concerts, oui, quand même.
Oui, surtout quand ceux qu'on faisait, oui.
La job de traductrice, ça se passe comment maintenant?
Oh, maintenant, moi, je suis à la pige, donc c'est sûr qu'aller travailler dans un bureau, là, ça offre peut-être plus de stabilité, mais en télétravail, tu sois prête à faire un peu de tout. Alors, tout est rendu tellement plus facile avec l'Internet et les recherches qu'on peut faire là-dessus, qu'on peut faire à peu près tous les sujets.
C'est des gens qui t'appellent pour t'offrir des contrats?
Oui, je travaille pour deux agences, disons, qui... une est plus vers le gouvernement fédéral et l'autre, c'est vraiment très, très, très varié. C'est des sites web, c'est le commerce électronique, le médical, mon Dieu, tellement de choses... diverses. Là,
est-ce que tu dois nécessairement être compétent, tu dois avoir une certaine compétence dans un tas de domaines variés pour pouvoir faire ces traductions-là?
Oui, on en acquiert au fil du temps, mais comme je disais, c'est que maintenant, avec les recherches qu'on peut faire, tout est accessible, tous les lexiques, c'est pas comme dans le temps qu'il fallait juste savoir les dictionnaires et papier. Mais je pense que c'est mon amour du français surtout qui m'aide à m'intéresser, à trouver la bonne façon de dire les choses, de les vulgariser, par exemple dans le cas de la santé, quand on traduit pour le public ou les médecins qui veulent essayer de vulgariser les choses pour le public. C'est ça, en fait.
Le plaisir de traduire, c'est en fait un plaisir d'écrivain à toute fin pratique, là.
Oui, on revient à ça, c'est sûr. C'est de traduire le message. C'est évidemment l'important, c'est d'être le plus près possible du message sans être trop littéral. Mais oui, c'est le plaisir d'écrire qui m'a amené là, sûrement. Parce que j'aime écrire aussi, sans que ce soit le texte d'un autre.
Y a-t-il un type de traduction que tu préfères à d'autres?
Ah, c'est une bonne question. C'est sûr que il y en a une que j'ai moins fait que les autres, c'est de l'adaptation littéraire. Parce que là, ça, tu peux vraiment t'éloigner du texte original.
Du mot en mot, là.
Oui, c'est ça, littéral. Mais disons que la publicité, ça, j'aime bien. Parce que traduire un slogan, traduire...
Parce que là, il faut toucher à l'esprit de la chose.
C'est ça, là. Tu peux élargir, tu sais, vraiment toucher les gens de la même façon que les anglophones voulaient toucher leur public cible. Donc, ça, j'ai du plaisir là, à faire mes brainstorms personnels pour trouver des slogans.
Est-ce que le métier n'a pas descendu? J'en connais d'autres, des traductrices ou des traducteurs. Il semble que le métier soit plus difficile qu'avant, qu'on fasse moins de sous qu'avant à cause des traductions électroniques.
Bien, je ne sais pas s'il y en a qui réussissent à se faire payer très cher, mais non, effectivement. Je me souviens d'être sorti de l'université, on me parlait de 25 sous du mot. Ça, c'était en 81. Et je n'ai que rarement eu ce montant-là du mot, là, tu sais. Et je me souviens d'avoir fait des recherches aussi pour de l'emploi aux États-Unis, pour voir. Et ça, c'est encore pire, là. C'est comme en dessous de 10 sous. Alors, c'est souvent... Et aussi avec les nouveaux moteurs de traduction disponibles, les gens pensent que, il n'y a rien là, traduire, on a juste à mettre ça dans la machine, mais il faut faire attention avec ça parce qu'il faut... Oui, il y a des logiciels qui le font, mais il faut toujours très, très bien réviser ce qu'ils te donnent parce que... Bon, mais ça fait que les employeurs, les clients s'imaginent que ça ne vaut pas tant que ça, traduire, alors que... Bon. Oui, effectivement, une bonne traduction, ça devrait être bien payé. Mais si je parle pour les choses que je fais. Je n'ai pas traduit de livres ou de trucs comme ça pour les maisons d'édition. Je ne sais pas, peut-être que là, c'est plus intéressant.
C'est quoi le genre de traduction qui te fait le plus plaisir quand la commande arrive?
Mon Dieu. À part la publicité, je pense que c'est quand même le médical, parce qu'en même temps, j'apprends, du coup. Puis de recevoir quelque chose d'assez volumineux qui fait que, bon, je peux gérer mon temps aussi mieux, là, parce que je suis aussi reconnu pour répondre assez rapidement. Alors, ils ont tendance à m'envoyer des rushs, des urgences à toute heure. Je me garde disponible 7 jours sur 7, donc, ce qui fait que c'est alléchant, disons, pour les agences, d'avoir quelqu'un comme ça qui peut réagir rapidement, là. Mais j'aime mieux, donc, un dossier qui est plus volumineux, disons, qui m'amène à apprendre quelque chose.
Et qu'est-ce que tu aimes le moins quand ça arrive? Je veux dire, non, pas un autre comme ça.
mon Dieu. La traduction technique me vient en tête, là. Comment fonctionne un téléphone cellulaire, par exemple, ou tel logiciel, ou... non, ça... Ou le financier. Ça me donne des boutons. Traduire des documents financiers, là, le stock market, puis le marché boursier, tout ça, là. Ouf, non.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un âge d'or de la traduction et que maintenant, c'est un milieu qui était peut-être en déclin pour toutes sortes de raisons qui n'ont rien à voir avec la qualité de la langue, là?
Bien, j'imagine qu'avant qu'il y ait des logiciels disponibles sur le net pour traduire, c'était certainement une meilleure période, oui. Mais je l'ai connu aussi, mais à ce moment-là, j'en faisais pas. C'est-à-dire que mon métier a bifurqué vers la publicité et vers la production de disques. Bon, le moment où on s'est connu plus, là. Alors, peut-être que j'ai manqué l'âge d'or, justement, de la traduction, parce que j'ai vite bifurqué vers la pub. Je dirigeais un département de publicité, là. J'étais rentrée au siège social de Pharmaprix comme traductrice, et rapidement, je me suis intéressée à la publicité, puis je suis rentrée là-dedans.
Donc, quand t'es à la fin ou au début de tes études universitaires, tu choisis la traduction?
Oui, ben c'est-à-dire, oui, forcément, comme au cégep, il faut savoir déjà, ou même au secondaire 5, il faut savoir où est-ce qu'on s'enligne. Ouais. Et j'ai eu un orienteur tellement poche, là, qui, quand je lui ai parlé de traduction, il m'a dit, ben voyons, va t'en bas là-dedans, tout le monde est capable de faire ça. Puis bon, alors, parce qu'au départ, je voulais m'en aller en journalisme. Mais parce que moi, c'était français ou maths, là. C'était ça, mes deux affaires fortes. Et puis, bien, c'était à Jonquière, ça, le journalisme. Alors, comme j'avais un chum, ça me tentait pas de m'en aller à Jonquière. À ce moment-là, ça n'était disponible que là-bas. Donc, malgré mon orienteur, j'ai choisi la traduction. Mais je pense qu'il avait quand même réussi à me convaincre que de devenir comptable ou de m'en aller en sciences économiques. J'ai fait une session. Une session, j'ai eu le cours d'économie, puis j'ai dit non, moi je m'en vais pas là, là. Et c'est là que j'ai changé tout de suite pour les sciences humaines et le mais bac en trappe.
Je voudrais que tu me parles un peu de la parenthèse dans ta vie où tu es devenue productrice de disques.
Ouais, ça c'est un addon, comme parce que justement quand je te parlais de Pharmaprix tantôt, j'ai fait, je sais pas, quelques années à diriger un département de pub. Et puis, à ce moment-là, mon père partait un camp musical dans les Laurentides. Et je venais de terminer mon certificat en scénarisation cinématographique. Je voulais écrire. Donc, je me suis dit, tiens, c'est pas parfait. Je vais m'en déménager dans le Nord. Je vais aider mon père avec son camp et je vais écrire. Mais c'est pas ça. j'ai pas eu le temps d'écrire là, ben. Parce qu'à ce moment-là, le camp musical déménageait à Saint-Adolphe. Il y avait tout. C'était... Le bureau était dedans, la maison où je restais, tu sais, bon. Et un an après ça, que j'étais dans le Nord, oups, le téléphone sonne, c'était Mario Labbé. Marie d'Angèle Dubois, là, producteur chez Analecta, qui me demande... Lui, sa compagnie Analecta commençait à ce moment-là. Je pense qu'il y avait le premier disque d'Angèle, Le cœur de l'armée rouge, puis deux autres disques. Et il me demande, veux-tu être directrice de production de mon étiquette? Alors, j'ai pas pu dire non, évidemment. J'ai pas trop compris cette offre, mais j'ai dit oui, bien sûr. Et...
Qu'est-ce que ça fait, une directrice de production d'un disque?
Surtout dans une petite compagnie comme ça, parce qu'on était comme deux avec Mario, plus peut-être une troisième personne. C'était beaucoup de sous-traitants. Hein. T'engages les gens qui en studio, tout ça, mais... Donc, mais c'est de partir le projet de A jusqu'à Z. Tu fais la demande de subvention selon les envies là, du patron. Et puis, tu vas chercher des sous. Ça, j'étais reconnue, j'étais assez bonne pour aller avoir des subventions. Ça, c'était l'âge d'or des subventions, d'ailleurs.
Ouais.
Donc, une fois que c'est de l'argent rentrait, bien, on... Tu décides quel studio, tu vas selon l'acoustique, s'il y a un piano, un orchestre, l'accordage, tout ça. Tu règles tout, finalement.
Le choix du répertoire?
Non, ça, c'est l'artiste, en règle générale. Ou sinon, avec le patron, là, en l'occurrence Mario. Mais il laissait assez libre les artistes d'enregistrer ce qu'ils voulaient.
Comment tu fais de la publicité pour promouvoir la vente d'un disque de musique classique?
Ah, ça, c'était pas simple non plus. Même qu'à un moment donné, on a engagé quelqu'un au bureau spécifiquement pour faire la promotion. Parce que c'est vraiment deux jobs très différents. Comme de la promo de n'importe quel autre spectacle, sauf que, bon, les journalistes classiques sont... plus difficile peut-être à rejoindre des fois. Puis il y en avait moins aussi. Il fallait que tu aies Claude Gingras. Il fallait que Claude Gingras parle de ton disque et il fallait qu'il l'aime. Parce que...
C'était déjà comme c'est encore maintenant, comme la littérature. Si les médias ne parlent pas de ce que tu fais en musique ou en littérature, tu ne vendras pas le produit.
Non, pas du tout. Il y avait toujours un concert, un peu ce sur quoi les gens se rabattent aujourd'hui parce que les disques se vendent beaucoup moins, donc ils vendent après les spectacles, mais non, c'est pas quelque chose de facile à vendre.
Si tu avais maintenant, on va laisser un peu les disques parce qu'on va y venir plus tard pour parler de tes parents, qui sont pas n'importe qui. Si tu avais à réorienter ta carrière maintenant, puis qu'il n'y avait pas d'obstacle, là, tu ferais quoi? Je te sens capable de faire pas mal d'affaires.
Oui, il y a bien des choses que j'ai laissées de tomber. Ben, c'est l'écriture qui me revient tout le temps. Là. Mais à toutes sortes de médias, disons. Pas nécessairement le livre, mais ça peut être même le théâtre. Ça peut être le théâtre musical. Ça peut être... Puis ça, j'en ai des boîtes comme ça là, avec les années que j'ai... Des projets, de projets,
de
projets, oui, qui sont... Ben, que je peux les ressortir, puis les... Ben, là, le temps file, hein? file. Alors, il faudrait que je priorise les projets qui me tiennent vraiment à cœur, ceux qui me tiennent le plus à cœur.
Mais qu'est-ce qui t'empêche de le faire?
Ben, c'est évidemment économiquement, parce qu'il faut s'asseoir, là, puis ne faire que ça.
C'est parce ça que... paye pas les fusseries,
ça. Non, c'est ça. Alors, c'est toujours ça. Alors, est-ce que ça a été mon excuse? Mais c'est une bonne excuse quand même. C'est que j'ai toujours priorisé, évidemment, le métier qui me faisait gagner ma vie par rapport à ce qui me tentait peut-être plus, là. Et bon, là, est-ce que je pourrais me dire, OK, comme je me suis payé en 40 ans l'humour, là, mais là, je pourrais peut-être me payer le temps au moins de faire un de ces projets. Et en espérant qu'il puisse rapporter quelque chose, là, mais... Et partir la roue un peu tard, évidemment. À 60 ans, il est un peu tard, mais bon. Pourquoi pas? Pourquoi
non? Il y a déjà du stock dans les cartons, de toute façon, il s'agirait de les ressortir
et de brasser
les cartes un peu.
Oui, oui, oui. Ouais. Comme je te dis, y en a certainement 4-5 là, qui mériteraient de voir le jour... Avant que moi, je parte.
Ça serait le fun, oui.
Ça serait le fun, tu trouves, toi? Ben, il me semble que ça pourrait être le fun, oui. Effectivement, à toutes sortes de niveaux. Ça peut être... j'ai des projets autant, évidemment, un peu dans l'humour, mais qui sont reliés aussi à la musique. D'autres, bon... la bande dessinée, comique aussi. Tu sais, il y a toutes sortes de choses là, qui pourraient être développées.
Ça serait comme le temps que t'essayes.
Tu penses, toi,
ah,
que t'es
oui.
bien gentil.
Oui, 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 oui.
Ah non... Ben, écoute. OK. OK, d'abord, si tu le dis, je vais suivre ton conseil.
Avec Christine Dessin, on a évoqué tes parents, mais là, on va y aller carrément okay. parce qu'on va arrêter de faire semblant qu'on ne le sait pas.
Okay.
Ton père était Raymond Dessin, qui était un des grands professeurs de violon au Québec, okay. qui était un grand chef d'orchestre aussi au Québec. Moi, j'ai travaillé avec vous et avec lui à l'ensemble d'Amati, qui est maintenant morte avec lui, hein?
Oui.
Mm-hmm. Malheureusement.
Oui.
Et ta mère était dans la musique aussi de façon extrêmement sérieuse. Elle s'appelle Jeannine Lachance, chanteuse, professeure de chant, pianiste, coach, etc. Ouais. Bon. Et les deux étaient des sommités dans le monde de la musique classique. Comment t'as été élevé par ces deux grandes figures de la musique classique? Écoutais-tu Elvis tranquille dans ton lit en dessous de tes couvertes?
Comme j'étais la seule enfant de ce couple, j'étais plutôt toute seule, parce qu'ils travaillaient fort les deux. Là. Écoute, si on commence par le début, ils venaient de Québec tous les deux, nés la même année en 1932, donc au Conservatoire de Québec, et les deux étaient très doués. Raymond était le premier prix de violon, puis Jeannine, elle a eu son premier prix aussi en piano et en solfège, bref. Et donc, ils se connaissaient de Québec, et tous les deux sont allés en Europe étudier. Ma mère parle avec le prix d'Europe, mon père autrement, mais bon. Et c'est à leur retour qu'ils se sont retrouvés et que je suis arrivée. Alors, c'était pas peut-être prévu tout à fait. Mon père était marié à l'époque, alors... J'ai pas vu mes grands-parents avant un bout de temps.
T'étais l'enfant du péché, toi.
Voilà, exactement. Ouais. Écoute, on a vécu à Montréal... dans le bas Outremont, comme je l'appelle, rue Bloomfield, rue Dollar. Et c'est ça, mon père était à l'OSM dans les premières années, ma mère au conservatoire comme coach de chant. Elle travaillait avec Raoul Jobin, Simoneau Allary, et finalement Lina Narducci et son mari pendant de nombreuses années. Alors... Et quand, j'avais peut-être une dizaine d'années, là, mon père a commencé à enseigner aussi au Conservatoire de Montréal. Et c'est les années d'Angèle Dubois, hein, entre autres. Et c'est ça.
Mais ça fait une enfance. Comment toi, tu vas à l'école là, au bas Outremont, comme tu dis? Ouais, est-ce que t'as un traitement particulier?
Non. Le traitement particulier que je suis très heureuse qu'ils aient... Ils avaient eu cette bonne idée à l'époque, c'est de m'envoyer à l'école alternative, si on veut. Donc, où il n'y avait pas de religion. Parce que on avait eu marre, on avait assez de ça. Il avait donné. Alors, ça, je leur en suis très reconnaissante. Donc, je suis allée à l'école Nouvelle-Saint-Germain qui m'amenait à l'Académie Kerb. Donc, j'ai fait mon primaire en école alternative, ce que je ne comprends pas pourquoi c'est pas comme ça partout maintenant. Oui, j'étais très, très, très choyée.
Et ça se passait bien à l'école?
Oui. Je n'ai pas eu jamais de difficultés.
T'étais enfant unique, t'étais bien socialisé quand même avec les autres, faisais facilement des amis, non?
Ça, peut-être au niveau sociable, c'était pas fort mon affaire au début. Par contre, j'ai eu la chance unique de rencontrer Dominique Chaloux en deuxième année. Et on s'est pas lâché, on riait. Alors, j'étais plutôt, moi, j'avais des amis proches, tu sais. Je n'avais pas 50 à ce moment-là, là. Là, on était toujours ensemble, Dominique et moi.
T'as été toujours comme ça, hein?
Bien, à l'adolescence, c'était gang. À l'adolescence, gang, ouais. Dans les années 70, là, on était en gang.
Okay.
Parce que, où j'étais rendu dans l'histoire avec mes parents, moi, à 11 ans, presque 12, ma mère a décidé de déménager. Mes parents se sont séparés. Et là, je suis allée à Laval, à Bellerive, où elle est restée jusqu'à la fin. Et c'est là que j'ai rencontré des gangs. Et c'était bien le fun. D'ailleurs, eux aussi, je les revois à chaque année. On se fait
un peu. Étais-tu un peu délinquante?
Oui, écoute, 70, ai-je besoin d'expliquer? Mais j'ai passé par là.
On parle d'un peu de joint, un peu d'alcool,
ouais,
un peu de tout ça.
Ouais. J'ai toujours aimé bien festoyer.
Est-ce que tu as gardé cet esprit-là?
De festoyer?
Ouais.
Oui, la récompense, moi, ça passe par là. Tout à fait. Mais on vieillit, il faut commencer à faire plus attention. Mais...
Dans les groupes, petite école, on l'a vu un peu, mais d'adolescents à Laval, est-ce que tu avais toujours un rôle assez particulier qui te ressemblait dans un groupe?
Mon Dieu, ben pas vraiment, parce que j'étais déjà la blonde de. Quand j'ai eu un chum, ben un premier, là, à 12 ans, ça a duré un an, imagine, à 12 ans, ça dure un an. Alors moi, c'est quand j'ai une relation, d'habitude, elle dure. Alors, donc, dans ces années-là, à partir de 14 ans jusqu'à 22 ou quelque chose comme ça, j'étais avec un garçon, là, dans la gang. Et peu de gens dans la gang étaient en couple. Donc, j'étais la blonde de...
Mais c'est jeune pour être la blonde de...
Ouais, c'est ça. Moi, mes trucs après ça, c'est très... Alors que tout le monde faisait des enfants, moi, à 22 ans, donc... Je laisse ce monsieur et j'ai été, je sais pas moi, 15 ans dans mon prime, comme on dit, à être célibataire. Et c'est à 42 ans que là, j'ai retrouvé quelqu'un d'autre. Alors que les gens font des enfants, pendant que toutes mes amies avaient des enfants, moi, j'étais célibataire.
Mais si on revient à l'adolescence, à 12, 13, 14 ans, ça se passe comment? La découverte de la sexualité aussi, il n'y a pas juste les joints et l'alcool, j'imagine?
Non, c'est arrivé assez tôt, là, relativement. Ouais. Et avec ce monsieur-là, d'ailleurs, avec qui je suis restée.
Avec tant d'années. Hein.
Oui.
C'est incroyable d'avoir l'adolescence avec le même.
Oui, mais écoute, sans aller trop dans les détails, mais disons que quand c'est notre première fois, quand ça s'appelle faire l'amour et non baiser, c'est assez rare déjà. Alors, je suis restée avec celui-là. Qui...
Oui, t'es plus rare, ouais.
Fait que je pense que j'étais bien tombée.
Qu'est-ce que tu préférais comme... fréquentation des arts, du monde culturel dans ton adolescence?
À l'époque, ouais. Oh mon Dieu, c'était très loin de la musique classique à ce moment-là. C'était Led Zeppelin, les shows au Forum, là. Yes, Gentle Giant, ce qu'il appelait le rock... comment il l'appelait? Progressif ou quelque chose comme ça, rock progressif. Et on se déplaçait, on allait à New York, à Boston. On était la gang était un peu malade de... Yes, John Anderson, enfin. Genesis, mon Dieu, Genesis,
ah ouais.
Peter Gabriel. Alors, on en faisait des mille et des mille pour aller les voir eux.
Comment tes parents de musique classique réagissaient à tes goûts à ce moment-là?
Disons que à ce moment-là, donc, je restais avec ma mère. Elle était très ouverte. Elle me sentait justement bien entourée, là, c'est pas... elle avait aucune inquiétude là, si elle me savait avec mon copain et les amis tout ça. Donc elle m'avait réservé une pièce dans l'appartement. Ça s'appelait d'ailleurs La Pièce, très originalement. Et c'est là qu'avec des bing bags puis mon système, c'est rien qu'un système de son, des bing bags et des black lights. Et là-dedans, mes amis venaient puis on écoutait notre musique. Donc, ça ne l'assommait pas, là. Je l'ai plus assommé en écoutant du Véronique Sanson 3-4 ans avant. Mais là, non. Par contre, mon père... Je ne l'ai jamais trop su parce que je ne le voyais pas souvent à mon adolescence. Et c'est peut-être bien ainsi. Ça,
est-ce que c'est une relation avec le père, est-ce que ça t'a un peu manqué à l'adolescence?
Non, c'était vraiment une vie de gang. Tu sais, j'allais à l'école, j'allais au cégep, bon... Moi,
si je déduis bien, en fait, tu n'as jamais eu de relation de type conflictuel avec tes parents?
Mon Dieu, avec ma mère, c'est une fois peut-être. Puis avec mon père, ben là, c'était plus au niveau du travail, quand on travaillait ensemble. Parce que quand on était juste au niveau...
Il était assez exigeant, oui.
Ah, tu t'en rappelles?
Oui, j'ai travaillé plusieurs années avec, oui.
Mais c'est ça, t'étais pas son fils ou sa fille.
Non, mais quand même.
Quand même, goûté quand même.
Oui.
Non, ben je veux pas que ça ait l'air si pire que ça, mais c'est sûr que... Bon, c'est au niveau du travail là, qu'on pouvait plus...
Est-ce qu'il y avait des pratiques de sport ou des voyages plein air? Ou ça se faisait-tu à l'époque?
Au niveau du sport, en tout cas, ma mère, aucunement sportive, mais c'est mon père qui m'a appris à nager. À faire des traverser des lacs aller-retour deux fois. On faisait de la brasse ensemble à Saint-Adolphe. Ça, c'était dans ma préadolescence. Et de l'équitation. Il aimait beaucoup ça. Il y avait eu un cheval. Et puis, j'avais pris des cours et tout ça. Ils m'avaient dompé une semaine dans une ferme là, où ils t'apprenaient à... où tu faisais le train à 5 heures le matin, mais aussi tu apprenais à faire l'équitation. Ça, c'est des beaux souvenirs. Et moi, si j'ai... parce que ma mère avait peur de l'eau comme pas possible, donc si je suis à l'aise dans l'eau, c'est grâce à lui. Mais c'était ses deux sports préférés, ça, la natation et l'équitation.
On va faire un petit peu un inventaire des deux. Qu'est-ce que tu dois à ta mère? Les deux sont disparus, il faut le dire maintenant. Qu'est-ce que tu dois à Jeannine de la chance, ta mère?
Ben, mon Dieu, c'est peut-être plus tout le côté sensibilité. On s'entend, c'est pas pour dire que de l'autre côté, il
ouais,
n'y en a
bien
pas.
Bien sûr, là. C'est deux artistes.
Mais son côté peut-être aimant, généreux, qui est touché par... C'est l'émotion, plus, je dirais. Et mon père, c'est le côté rationnel. Alors, des fois, j'ai vraiment l'impression que c'est 50-50 chez moi, coupé au couteau, là, le rationnel et le
de la
émotionnel.
Mère et du père. Ouais, ouais, ouais. Et les deux, bon, elle joue du piano, lui est un violoniste de haut niveau. T'as jamais été tenté par
ouais,
les instruments?
La musique, ouais. Ben, j'ai étudié le piano au départ. Ma mère ne voulait pas l'enseigner. Elle n'a jamais enseigné le piano. Mais elle connaissait évidemment des profs. Alors... Mais j'étais paresseuse, je crois, le mot. C'est bien ça, le mot. Ouais, la discipline, les gammes, tout ça, ça m'ennuyait un peu. Alors moi, j'apprenais par oreille. Je demandais à ma mère de me donner quelques cues. Puis là, ben, je le répétais. J'aimais mieux aller tout de suite directement à essayer de jouer les mélodies que j'aimais. Donc j'ai essayé comme ça trois profs, mais tu sais, ça durait pas longtemps parce que les profs se tannent aussi évidemment quand tu pratiques pas d'une fois à l'autre là, ou si peu. Alors puis je me rappellerai toujours que mon père qui avait son studio dans la cave et le Steinway de ma mère était au salon en haut et moi je pratiquais sur ce beau Steinway, mais à un moment donné il a monté puis il a dit là parce que je me trompais toujours sur la même note. Il dit, tu veux pas étudier le violon à la place? Et non, parce que j'avais déjà entendu les histoires là, de son enseignement. Et
il,
ça me tentait pas
très
du
dur.
Tout, du tout.
Il était très dur. Ah, oui.
Alors, ça s'est arrêté là. Je me suis amusé par la suite à pianoter. Là. De la même façon, j'achetais des partitions. J'avais assez appris pour pouvoir lire la musique. Donc, je pouvais m'amuser à jouer ce que je voulais, là.
Parle-moi un peu de la fréquentation de ces objets que sont les instruments de musique. Tu es dans un milieu tel que tu parles du Steinway de ta mère, c'est pas un petit
chose.
Piano. Là. Mm-hmm. C'est du
mais
piano.
C'est un bébé,
de...
là. C'est le petit, mais quand même.
Quand même, c'est un Steinway. Ah, oui, puis j'ai connu ton père, puis j'ai vu les violons qu'il y avait là,
oui.
Etc.
Mm-hmm.
Il y avait des violons de très, très haute valeur. Tu as fréquenté des objets comme ça. Ça t'as-tu...
Oui.
Étais-tu conscient de la valeur de ces objets-là?
Oui, ça, je l'ai su assez rapidement. Puis c'est une chance de voir de ces beaux objets-là, parce que un violon neuf ou un violon qui a voyagé dans le temps, c'est pas la même chose. En tout cas, le violon, je l'ai pas essayé un peu, là, tu sais, mais ça doit être quelque chose vraiment de... Je peux ressentir, disons, quand un violoniste ou une violoniste joue d'un instrument et en parle comme... comme d'un être vivant et sortir les sonorités et tout ça. Ça, c'est le côté du violon. Le côté du piano, bien, ma mère avait l'air vraiment organiquement dans le piano quand elle jouait. Et son Steinway avait des belles notes en ivoire. Donc, tu sais, avec l'usure. Malheureusement, quand j'ai récupéré le piano, les notes avaient séché. Il a fallu changer le clavier. Ah. Mais j'ai conservé.
Le vieux clavier?
Oui, l'ivoire des vieilles notes, oui.
Est-ce que tu fréquentes de la musique maintenant? Les concerts de musique classique, tu y vas ou tu restes encore dans la musique plus pop ou je sais pas?
J'ai comme lâché à un moment donné d'entendre de la musique classique. C'est comme si j'en avais eu trop. C'est plate à dire, là.
Ouais, ouais.
Mais il faut dire aussi qu'au camp musical...
Qui est le camp musical des Laurentides, hein?
Oui,
c'est
camp musical des Laurentides,
ouais.
À Saint-Adolphe d'Howard, oui. Quand tu travailles là, ben tu vas entendre tous les concerts. T'en entends tout le temps. Puis tu vas tous les concerts, tu les filmes. Je filmais les concerts aussi. À un moment donné, puis bon, du côté de ma mère, ben, elle en donnait aussi des concerts. Donc j'allais évidemment entendre les concerts. Quand ma mère a arrêté, je ne suis pas retournée. Je ne courais pas les concerts non plus. J'ai comme pris une pause là-dessus. Et qu'est-ce que je suis allé voir par la suite? Non, il y a eu comme beaucoup moins de sorties à ce niveau-là, mais c'était plus dans le populaire, oui. Quand il y a quelque chose qui me tenait à cœur, c'était de revoir, mettons, Peter Gabriel ou des anciens coups de cœur comme ça que j'avais à l'époque. Mais là, ça me revient. Évidemment, avec leur décès, ça a été dur là, de réécouter certaines choses. Puis là, ça fait 2 ans, donc, je réécoutais ma mère chanter et s'accompagner, puis ça rentre, là. Je pleure pas automatiquement là, en
l'entendant. T'as pas une tendance particulière à la nostalgie pour autant, je pense?
Ben, je suis assez nostalgique d'une certaine époque, là, justement, l'adolescence. Ou, ouais. Mais non, je peux avoir la larme facile quand j'entends une mélodie qui me rappelle... un souvenir émotif quelconque, j'ai la larme qui me vient. Mais c'est pas négatif pour moi, c'est une belle émotion. Puis là, ben, après ça, tu fais autre chose, là, t'sais, mais je reste pas là-dedans. Ça peut servir, parce qu'à un moment donné, des fois, on garde un peu trop les boules dans la gorge, alors je sais exactement quoi écouter pour revenir à la norme.
Et c'est quoi?
Oh mon Dieu, ben... Il y a des trucs là, que je réécoutais avec ma mère qui s'accompagne au piano. Élégie, par exemple, de Fauré, que Jacques Blanchet a écrit des paroles là-dessus. Elle aimait bien aller chercher des raretés où personne connaissait ça, mais quelqu'un avait mis des paroles sur la sonate Claire de Lune de Beethoven, mettons, ou Élégie, comme je viens de le dire. Et une autre sur l'air sur la clé de sol, je pense que ça s'appelle, prière de Bach. Ouais. Je meurs.
L'air sur la corde de sol.
Alors, puis quand je l'écoute chanter par ma mère, là, c'est assez prenant. Thank you.
L'aventure de Christine Dessin. Donc, on a vu qu'elle était la fille de M. Dessin. Hein? Maître Dessin.
Maestro.
Maestro Dessin et de Jeannine Lachance, qui sont des figures importantes de la musique classique. Comment tu regardes le monde des arts maintenant? T'arrives au début de la soixantaine maintenant?
Mm-hmm.
Quand tu vois le monde de la musique, le monde du cinéma, le monde des arts en général, comment tu le vois? T'as une perception qui a changé avec le temps?
Mon Dieu, ça englobe beaucoup de choses, mais pour ce qui est de la musique, bien sûr, il y a une déception chez moi là, de voir que les CD, les ventes de disques diminuent, de voir tous ces... Netflix ou qui d'autre.
Des injustices, c'est là.
Oui, absolument. Et ça ne règle toujours pas le droit d'auteur qui paye encore à la scène alors que la scène n'existe plus, disons. Ça, vraiment, je trouve ça dur. Comment un artiste va pouvoir survivre maintenant? Et ici, il y a tellement de talent, ça. Je les trouve vraiment courageux et de toute façon doués, là. Mais... de continuer, de persévérer. Ici, il y en a tellement de talents. Il aurait pu se décourager et dire « on va faire autre chose dans la vie », mais il persiste et signe et continue.
Tu as étudié en humour pour te faire plaisir au début de ta quarantaine.
Ouais, ouais.
Est-ce que, je sais pas moi, l'envahissement de l'humour partout à tout prix dans tous les secteurs t'agace ou ça te plaît? Parce qu'on en voit partout. Là, ça...
Oui, c'est un petit peu trop peut-être dans la publicité, là, que des fois, c'était pas nécessaire, surtout quand c'est pas drôle. Là. Mais j'aime ça, l'humour, bien sûr, mais... Il faut que ce soit drôle.
quand tu regardes la programmation des salles de spectacle au Québec,
ouais.
Je veux dire, t'as trois spectacles d'humour. Ah, c'est incroyable. Il n'y a plus moyen d'avoir d'autres choses. C'est rarement un spectacle de théâtre. Hein. C'est l'humour, l'humour, l'humour.
Effectivement, oui. C'est ce qui apparaît, en tout cas. C'est ce qu'on voit. Là. C'est vrai qu'effectivement, les chanteurs... là, je parle même pas de... Les orchestres survivent quand même.
Oui, mais tu sais, les chanteurs se mettent à deux pour faire un concert, pour être sûr d'assurer des gens.
Ça,
Je trouve ça un peu désolant, personnellement.
Il y en a peut-être trop, à un moment donné. Et, bon, on peut peut-être blâmer là, l'école de l'humour, mais bon...
Je pense pas.
Il y en a qui le font. Mais je ne blâme pas l'école de l'humour, ceci dit. Mais c'est sûr que ça a généré beaucoup
d'humoristes.
Oui, oui. Bon, là, on a le contre-coup.
Mais
si
c'est
on
aussi
veut de
parce
ça.
Qu'il y avait une demande sociale pour en avoir des humoristes. Moi, je me demande si.
Mais ça marche encore, ça y remplisse tous.
Absolument.
Alors, ou enfin, presque.
Est-ce que ça veut dire qu'on a une société qui est très malheureuse et qui a besoin de rire pour ne pas voir les choses en face?
Hein. Ça ressemble peut-être à ça, là.
Oui.
Je sais que, quand même, les Québécois sont des bons vivants. Est-ce que ça a un rapport? C'est sain, de toute façon, de vouloir rire. Alors, il n'y a rien de mal là-dedans. C'est sûr que maintenant, justement, vu qu'on ne voit que ça, ben, il faut chercher peut-être davantage pour aller trouver d'autres choses. Je ne sais pas les salles de théâtre, comment ils se portent, là, mais...
Mmh,
ils
c'est
doivent,
pas facile.
C'est pas facile, hein? Bon. Alors, puis le cinéma, je ne sais pas. J'adore le cinéma. Je suis porté à l'écouter plus dans ma télé que de sortir. Shame on me, je devrais encourager surtout le cinéma québécois. Là, maintenant, je reste dans le Nord. Je suis un petit peu plus loin. Quand je restais près du cinéma Beaubien, ben, j'y allais plus, évidemment.
Dans le monde du spectacle en général, il y a une montée... Ça a toujours été le cas d'avoir du glamour, hein, de la paillette et du scintillant dans ce monde-là, mais c'est devenu à un degré de sexualisation à paillette absolument incroyable. Toute
tu parles des transgenres?
Non, tu sais, prends l'exemple du Super Bowl, par exemple, où tu avais ces deux chanteuses qui étaient, bon, super sexy et super paillettées. Mm-hmm. Je me demande si des gens de ton âge sont sensibles à ça. Je vois des jeunes qui y sont très sensibles, mais à 60 ans...
Ah, de
ans,
mon âge?
Oui.
Non, ça m'intéresse nullement.
Ouais.
Absolument pas. J'ai même pas écouté le show de la mi-temps. Moi, je cherchais le numéro 76 sur le terrain. Là.
Faut dire que ton père...
J'appelais en dessous.
Mais ton père aimait le football aussi.
Oui, oui.
Ben, j'ai regardé des matchs avec mon père, moi. Oui, oui.
Ben, j'aimais ça aussi beaucoup à l'adolescence, quand les Alouettes étaient bien bons. Là. Johnny Rogers, je pense qu'il s'appelait, le quarterback. Enfin, bref. Donc, pour revenir aux paillettes, ça me fait penser, je sais pas moi, Claude Bell... Comment il s'appelle déjà? Claude Bell... J'oublie toujours son nom. Bref, il y a des costumes intéressants, là, mais des paillettes... ça, qu'est-ce que ça donne? C'est juste pour... Interprète-moi quelque chose de solide, puis... c'est ça qui compte pour moi, plus que la parade.
c'est quoi les défis que tu aimerais relever là, pour la dernière grande section de vie qui te reste? Là?
Les défis, à part ce qu'on jasait tantôt, là, d'écrire quelque chose, là, finir par finir les projets. Ben, peut-être m'investir un peu au niveau politique.
Ah!
Mais pas en avant, bien sûr. Pas en avant. Je ne ferai pas... non. Mais sauf que au niveau peut-être plus local, il y a des choses à faire qui peuvent aider pour l'environnement, par exemple. Ça m'intéresse beaucoup. Évidemment, le pays du Québec, j'y ai toujours cru. Donc, aider à ce niveau-là, oui, ce serait des genres de trucs...
Quand tu regardes rétrospectivement ce que tu as vécu, est-ce que tu es particulièrement fier de certains défis que tu as relevés ou des difficultés que tu as surmontées? Tu dis, là, je suis contente de moi, là.
Bien, d'avoir toujours réussi à gagner ma vie, c'est déjà bien, je trouve. mon Dieu, il y a toute la période de production de disques, je dirais, c'est quand même... peut-être une centaine de disques, ce qui n'est pas rien. D'avoir parti une compagnie à cette époque-là, de disques aussi. Je travaillais fort, très, très fort. Des 90 heures semaine, c'était régulier, ça, dans ce temps-là. Alors, ça, oui, d'avoir pas été si paresseuse, finalement.
Oui.
Et voilà.
Et te restes-tu des rêves?
D'autres rêves que ceux que je t'ai dit, mon Dieu. Je pense que tout tient beaucoup à la création. Je pense retourner plus vers tous les métiers de création, vraiment. Là.
Sortir tes feuilles de ton tiroir.
Oui, c'est ça, celle-là.
Moi, t'as chalé avec ça.
Oui, puis peut-être voyager, parce que là, ça fait longtemps que j'ai pas sorti de...
Et t'as déjà beaucoup voyagé?
Ben, disons que la période que je te parlais des 90 heures semaine, là, une fois par année, je m'en allais dans un club med ou un truc du genre pour décanter. Alors, je suis allé en Europe aussi. J'ai eu la chance d'aller sur la Côte d'Azur avec mes parents très jeunes. Après ça, au Midem, à Cannes. Oui, j'ai eu cette chance-là avant que la planète se mette à shaker de la jambe un peu. Là.
Ça te préoccupe beaucoup, les menaces écologiques sur
ben oui,
la
sûr.
Planète, je ne sais pas, mais sur l'humanité, oui.
Ben oui, c'est sûr que ça me préoccupe. D'ailleurs, quand j'ai choisi de ne pas avoir d'enfants, et ça fait une mèche déjà, j'étais pas, comment ils appellent ça, éco-anxieuse,
ouais.
Mais... je ne voulais pas faire naître personne dans ce que je savais qui s'en venait. C'est plate à dire, mais c'était ça que... C'est pas parce que... Bien, évidemment, il faut avoir un noyau, quelque chose de solide pour avoir des enfants, là. C'est ce que je me disais. Mais je me rappelle que c'était vraiment aussi... Non, qu'est-ce qui va arriver, tu sais? J'étais déjà consciente très, très tôt, moi, de l'écologie. Je suivais ça. Ça fait 45 ans que je récupère et que Recycle Québec en jette 75%. Alors, ça me déçoit beaucoup. Quelle trahison que d'avoir recyclé toutes ces années en croyant que oui, il s'occupait de ça et finalement, non.
Pas vraiment, non.
Alors, voilà. Donc ça fait longtemps pas, que je sais que...
Tu n'es pas particulièrement optimiste sur l'avenir, là?
Oui, je suis idéaliste. Je suis idéaliste.
C'est pas comme optimiste, ça.
C'est ça. Mais ça aide un peu à l'être. Et où, tu sais, je vois pas tout en noir et tout ça, mais de façon, cohérente ou raisonnable, je ne crois pas que ça... On va pouvoir... la décroissance, là, je ne crois pas que ça va arriver. Et je pense pas que les gens qui sont plus millionnaires maintenant, mais multimilliardaires, vont se mettre tout à coup
à
répandre leur richesse. Moi, je pense qu'il y aurait un changement vraiment important au niveau psychologique, une évolution psychologique qui devrait avoir lieu quand on a laissé tomber au profit de l'évolution technologique.
Ouais.
Sinon, c'est impossible que ça arrive, qu'on s'en sorte. Mais quand? Là, ça va toujours plus vite. T'sais, l'exponentiel, ça va toujours plus vite. Donc.
Y a-t-il des changements que ça te tenterait de faire dans ta vie?
À part de vivre dans le sud. Parce que là, le nord... moi, je si je peux essayer de peut-être prendre plus soin de ma santé pour vivre plus longtemps, je vais essayer. Je vais essayer ça. Parce que, comme je te disais, ben, y a peut-être des projets que ça me tenterait de faire. Puis ben, pour ça, ben, il faut qu'il y ait quand même des années en avant qui restent. Alors... c'est du terre-à-terre comme ça, oui, d'essayer d'être bien sans trop de vin, tiens.
OK. Mais en fait, t'es contente de ta vie.
Oui, je me pète pas de bretelles, mais oui, je considère que... oui, pour une femme, disons, qui sort, qui est issue de cette espèce de révolution de l'époque. Oui, j'ai fait ce qu'on m'avait dit. Là. Ma mère m'avait dit « Sois indépendante ». Et c'est ce que j'ai fait.
T'as envié l'excellence de tes parents. Ça t'a même nourri dans tes recherches d'excellence. Mais t'as jamais envié la notoriété de tes parents qui, dans leur milieu, étaient de grandes vedettes quand même. Là.
Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai pu être fier, disons, de... un projet que j'ai oublié tantôt, tiens, autour de Camille, qui était un concept que j'avais fait avec le Quatuor Claudel, autour de la vie de Camille Claudel, donc, avec des projections des impressionnistes, de tout ça, et de la poésie. Donc, ça, j'ai été fier de ça. Et là, j'oublie pourquoi je voulais te dire ça. Tu vois, c'est ça, la vieillesse, hein?
Il y a des rêves qui tournent en rond comme ça.
Tu vois, c'est ça. Enfin, excuse-moi.
Non, c'est pas ça. Non, je te demandais si tu avais été dans l'ombre de l'autorité des parents.
Donc, c'est parce qu'à ce moment-là, j'étais fière. J'étais dans l'ombre, parce que j'avais fait le concept, mais j'étais fière du produit. Donc, être fière d'un accomplissement... c'est ma propre notoriété à moi, tu sais, qui me tape dans le dos, là. Mais avoir la tape dans le dos des autres, oui, c'est sûr que c'est agréable, hein? Que les autres constatent qu'on a fait quelque chose de bien. Mais non, j'ai jamais cherché à être en avant du tout. Je suis plus comme ma mère, qu'elle était pianiste, accompagnatrice. Elle aurait pu être chanteuse, faire carrière. Mais c'est comme quand elle allait à la Place des Arts ou ailleurs, elle s'assoyait toujours au dernier banc en arrière pour ne pas être vue, contrairement à mon père, lui, qui était en avant.
Oui, et bien coiffé.
Tout à fait.
Christine Dessin, merci.
Merci à toi, Robert.
Bonne continuation.
Toi aussi.
C'était l'aventure, à la mise en onde, Jean-Sébastien Laliberté, Robert Blondin ici, à la semaine prochaine.